Bon, j'espère que vous allez bien. Une heure de plus de sommeil, hein? Tantôt, je disais ça à ma gang du secondaire, puis on a pris une heure de plus pour veiller à la place. Fait qu'ils sont couchés plus tard, ça n'a rien changé. Mais ce matin, on a une bonne avant-midi devant nous. On a aussi la table du Seigneur qui nous attend. Et on pourra prier aussi tantôt pour notre pasteur. René, il est en vacances avec sa femme, il revient demain. Il était en vacances cette semaine, fait que c'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin avec nous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Léonidas? Oui? Léonidas. Alors, c'est pas un personnage de la Bible, hein? C'est pas un personnage de la Bible. Léonidas est un... Si on regarde l'histoire du monde, OK? Si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a la période de l'Antiquité, hein? L'Antiquité qui est avant Jésus-Christ. Il y a une grande période qui a eu des nations très importantes. Léonidas était le roi de Sparte. Et le roi de Sparte était dans la Grèce et malheureusement pour lui et pour les Grecs encore à ce temps-là, ils étaient sous l'oppression d'un ennemi qui était d'une méga puissance, qui était la Perse. Je vais juste prendre un petit brin d'eau, j'ai la bouche sèche. Hein. Fait qu'il y avait une méga puissance à ce temps-là qui était la Perse. Fait que Léonidas... Il voulait défendre la Grèce, du moins son secteur, les Thermopyles à ce temps-là. Et puis, il n'y avait aucune chance de gagner. Les Perses étaient tellement puissants, même quand que le roi de Perse, qui était Xerxès à ce temps-là, un homme lui aussi qui était l'homme le plus puissant de la Terre à ce temps-là, Xerxès a envoyé un messager à Léonidas lui disant « Ça sert à rien de te battre. » Parce que quand que, juste par exemple, nos archers lancent leurs flèches, le soleil est obscurci. Et Léonidas lui aurait répondu, selon les historiens, dans ce cas-là, on va se battre à l'ombre. Et il était prêt à se battre. Il était prêt à se battre contre Xerxès, contre cette méga puissance-là qui était la Perse. Et Léonidas est parti se battre avec 300 hommes. Peut-être que vous avez entendu parler du film 300. Je ne suis pas en train de faire la promotion du film parce que c'est peut-être un peu trop violent. Mais ce film-là relate justement des événements de l'histoire que les historiens reconnaissent, que les gens connaissent ce roi-là qui était Xerxès et Léonidas qui est parti avec 300 hommes, Léonidas qui était le roi de Sparte et puis pour essayer de défendre sa contrée et il a perdu. Pourquoi je vous parle de ça? Xerxès, cet homme-là qui était le roi de la Perse, qui était la puissance du monde, a marié une femme qu'on connaît. Esther. Esther était la reine de Perse qui a marié Xerxès, le roi à ce temps-là, qui s'est battu contre Léonidas, ce célèbre personnage qu'on entend parler, qui s'est battu avec les 300 hommes. Esther était la femme de Xerxès, le roi de Perse. Et les Perses étaient un peuple puissant, un peuple cruel, un peuple qui pouvait avoir la victoire sur tous ses ennemis près d'eux et les assimilait et les prenait. Le peuple juif, à ce temps-là, était déjà dans la diaspora, était déjà dispersé à cause de l'abandon de leur foi un peu avant, justement, quand ils ont été dispersés à cause de l'abandon de leur foi. On peut résumer ça comme ça. Pourquoi je vous parle de Esther ce matin? Je voulais vous faire le contexte historique parce que les historiens, d'une façon unanime, attribuent Xerxès au roi Assuérus dans le livre d'Esther. Et ça, pour les historiens, même les historiens qui ne sont pas associés à la foi, vont dire que Xerxès, c'est le roi cité dans la Bible qui est Assuérus. Et si vous vous souvenez, quand j'ai prêché la dernière fois, on a parlé de Néhémie 1. Et Néhémie était échanson à la cour du roi. Souvenez-vous le nom du roi? Artaxerxès, qui était le fils de Xerxès. Alors, Néhémie, qui est à la cour du roi, se trouve la génération après Esther et puis Xerxès ou Assuérus. Et le roi suivant Xerxès, c'est Artaxerxès, qui est de la même génération à Néhémie, finalement. Alors, quand on regarde l'histoire comme ça, même de ce que les historiens disent, on voit cette corrélation-là entre le livre d'Esther, ce que la Bible nous dit, et aussi ce que les historiens vont reconnaître. Et cette Perse qui était puissante, personne ne va nier l'existence de Xerxès, personne ne va nier l'existence de la Perse. Et comme on voit dans les Écritures, Esther qui était une orpheline, est devenue, de fil en aiguille, la reine de Perse. Ce matin, on se lance dans le livre d'Esther. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai parlé voilà, deux dimanches, qu'on commençait une mini-série. On a commencé avec Néhémie. Et le thème avec Néhémie que je veux qu'on regarde, c'est l'homme de courage. Dieu veut qu'on soit, qui que l'on soit, des hommes ou des femmes, il veut que l'on prenne notre rôle et qu'on agisse dans le rôle que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné des forces, il nous a donné des choses qui nous ressemblent, des choses qui nous appartiennent en tant qu'hommes et en tant que femmes. Et quand on se les approprie puis qu'on fonctionne dans le rôle que Dieu nous a donné, ben ça marche. C'est positif. Et là, j'aimerais juste prendre une petite parenthèse pour dire que on soit marié, qu'on ne soit pas marié, on peut être une femme ou un homme qui a un rôle aussi à jouer. Et Dieu veut qu'on soit, pour les hommes, des hommes de courage. Une façon en voulant dire que on est des hommes qui, si on a un rôle de leadership qui nous est donné par Dieu, mais qu'on va assumer le rôle que Dieu nous donne. S'il y a un rôle qui est donné à la femme, que j'emploie l'expression qu'on voit ce matin, la femme d'influence avec Esther. Esther, elle a joué son rôle. Elle a pris le rôle que Dieu lui a donné et elle est devenue une femme d'influence. Comment est-ce que pour nous, aujourd'hui, dans nos vies, les femmes, vous pouvez être des femmes d'influence? Que vous soyez mariés ou que vous ne soyez pas mariés, vous pouvez être des femmes d'influence dans l'Église, vous pouvez être des femmes d'influence dans votre société, vous pouvez être une femme d'influence pour votre mari, et c'est une bonne chose, et c'est ce que Dieu veut. Si vous souvenez, au moment de la création, Dieu a créé Adam, puis il lui a donné un rôle, hein, il lui a donné le rôle de prendre soin de la terre, et puis après ça, quand il a nommé tous les animaux, Adam a réalisé, il n'y a personne à ma ressemblance. Et là, dans le plan parfait de Dieu, la chute n'est pas arrivée, là. Dans le plan parfait de Dieu, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis il lui a fait une aide semblable, qui était Ève, finalement. Dans ce plan parfait que Dieu a créé, il y avait un homme, il y avait une femme, et les deux ont des rôles qui se complètent. Et ça devient clair, avec les Écritures. Je vous invite à tourner avec moi dans Esther. Et là, j'avais évidemment lu le livre d'Esther avant, aussi le livre de Néhémie, mais sans avoir réfléchi à ce qui s'en venait avec le chapitre 1, ben on est confronté avec un sujet un petit peu chaud ce matin. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va chauffer, mais je veux juste vous dire qu'on ne pourra pas voir tout ce que je voulais qu'on voit ce matin, en 30 minutes, parce qu'on veut prendre le temps pour la table du Seigneur aussi. Et je vous invite ce soir, parce que ce matin, on va voir ce premier conflit-là qui va s'immiscer dans la Perse à travers un homme et une femme. Mais je veux pas ce matin, évidemment, on va voir le conflit, on va voir le problème, puis je veux présenter la solution, je veux présenter le rôle que Dieu a donné à l'homme et à la femme, et ça, je vais le faire ce soir. Et je vous invite à venir à écouter la deuxième partie. Si vous pouvez pas être là, je pense que les messages sont encore sur Internet, si je ne me trompe pas. Et écoutez la suite 2 aussi, qui va venir compléter cette première matinée que l'on a ensemble. Fait qu'on va faire un mot de prière et après ça, on va commencer à regarder le livre d'Esther. Seigneur, on vient devant toi premièrement pour te louer, pour t'adorer. Tu es notre Dieu, tu es notre Papa. Dieu, tu nous parles à travers les Écritures. Tu veux notre bien. Tu veux te faire connaître. Tu veux nous faire connaître ta volonté. Ce matin, Seigneur, on veut ouvrir ta parole et on veut te donner accès à notre cœur, on veut te donner accès à notre esprit pour que tu nous touches, pour que chacun d'entre nous, que tu viennes mettre le doigt, Dieu, là où ce que tu veux qu'on soit enseigné, là où ce que tu veux qu'on change nos vies. Que cette parole ce matin, Seigneur, vienne de toi, que tu nous touches et en même temps, on veut l'écouter avec la disposition du cœur de transformer nos vies pour te plaire. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. Avant qu'on lise Esther 1, laissez-moi vous faire, vous allez dire encore, un petit peu d'histoire, OK? Parce que je pense que pour comprendre les livres qu'on a dans les Écritures, je pense que c'est bien au moins de les placer dans une ligne du temps, en gros, du moins, OK? Commençons avec ça. On se souvient que les Hébreux sont en Égypte, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont 40 ans dans le désert. Après 40 ans dans le désert, ils vont entrer en terre promise. J'ai fait un peu le même résumé avec Néhémie, mais je continue le temps. Ils arrivent en terre promise avec Josué, ils prennent la conquête du pays et s'établissent dans le pays. Après Josué, tombe une période de 350-400 ans de juges où chacun fait ce qui lui semble bon. C'est le chaos. Ils reviennent, ça fonctionne bien, ils reviennent à Dieu, mais ils abandonnent Dieu, sont assujettis par les nations étrangères. Le cycle commence déjà là. Et après cette période-là, là, le peuple de Dieu, ils disent, bon, ben nous, on aimerait ça avoir un roi comme les autres nations. Et là, Dieu, il dit, bon, mon peuple me rejette en tant que roi. C'est pas toi, Samuel, qui rejette, c'était Samuel qui était juge à ce temps-là, prophète. Et là, finalement, Dieu, il dit, OK, je vais vous donner un roi comme les autres nations. De là, le début de l'épopée monarchique, où est-ce qu'il y a les rois qui vont s'enchaîner un après l'autre. Il n'y a pas énormément de rois pendant qu'il y a eu le royaume d'une façon complètement unie, où est-ce que tout Israël était uni. Parce qu'il y a eu Saül, après ça, il y a eu David, qui est un cœur selon Dieu, et David a eu Salomon. Et Dieu avait dit depuis le début, si vous êtes fidèle à moi, vous allez être dans le pays, vous allez être en paix, vous allez avoir la prospérité, et puis si vous m'abandonnez, ben il va y avoir des difficultés. Et ça, c'était vrai pour le roi aussi, parce que si le roi abandonnait Dieu, ben, il y avait des difficultés. Bon, sous Salomon, les deux fils que Salomon a eu après, le royaume s'est divisé. Le royaume du nord, Israël, le royaume du sud, Juda. Le royaume d'Israël, celui du nord, a jamais suivi Dieu. A constamment resté dans l'abandon de Dieu avec des rois qui étaient idolâtres, qui étaient méchants devant Dieu. Et très tôt, ce peuple-là, le peuple du Nord, a été déporté. De la même façon que dans les juges, il y avait des nations étrangères qui venaient puis les attaquer. Mais même dans cette monarchie-là, Dieu envoie des nations étrangères pour venir prendre Israël puis les déporter. En Juda, il y a eu des bons rois. Le peuple a suivi le roi, a suivi l'Éternel pendant des périodes d'années. Et puis, à un moment donné, jusqu'à l'abandon, où ce que Juda aussi est tombé dans la dureté du cœur en abandonnant Dieu. Dieu a envoyé à ce moment-là d'autres nations. Vous vous souvenez, Daniel? Daniel faisait partie aussi de la déportation, entre autres de Juda. Alors, les gens, si on lit des prophètes comme Jérémie, Ézéchiel, des prophètes comme ça, ils vont voir le peuple qui dit « Repentez-vous, parce que l'oppression s'en vient, Dieu va vous châtier. » Et là, ben les prophètes parlent, mais ça tombe dans l'oreille d'un sot finalement, parce que le peuple continue, sont déportés à Babylone. Babylone qui était la nation puissante à ce moment-là. Alors, le peuple de Dieu est dispersé. Ensuite de cela vient la Perse qui détruit, qui combat Babylone. À ce moment-là, la Perse, on arrive bientôt, là, justement, les Mèdes et les Perses qui prennent la puissance du monde. Et avec les Perses, sous Esdras, là, on arrive avec les livres de Esdras, Néhémie, Esther. C'est la même période. Alors, avec Esdras, c'est la période d'Esdras, le roi de Perse permet qu'il y ait déjà un retour à Jérusalem, mais ça ne marche pas. Les gens retournent, mais ils restent dans l'idolâtrie, ils restent dans la désobéissance. Jérusalem n'est pas rebâti, le temple n'est pas rebâti. Même s'il y a 50 000 Juifs qui retournent, ça ne marche pas. Ça prend un leader. Comme on a vu l'autre fois, Néhémie, qui a fini par revenir pour reconstruire les murailles, Esdras pour reconstruire le temple. Il y a de l'ordre qui commence à se recréer, mais ça prend des hommes de courage, des hommes de Dieu. Et là, on arrive dans cette période de diaspora, et le livre d'Esther peut se joindre peut-être entre le chapitre 7 et 8 de Esdras, et Néhémie arrive après Esther dans la chronologie du temps. Fait qu'on est dans une période où ce que le peuple est opprimé, il est envoyé dans d'autres nations étrangères pour être puni par Dieu. Et là, on arrive avec le livre d'Esther. Le livre d'Esther, avant qu'on lise, on va lire bientôt, OK? Découragez-vous pas. Moi, quand j'étais à l'école, j'aimais pas les cours d'histoire. Mais j'espère que vous suivez quand même l'histoire des Écritures. Le livre d'Esther a été beaucoup contesté. Juste pour faire un petit contexte du livre d'Esther, a été contesté. Savez-vous pourquoi? Parce que c'était une femme. Peut-être. Mais je pense pas que c'est ça. Le livre d'Esther, le nom de Dieu revient aucune fois. On ne parle pas du Messie. On ne parle pas d'ordre religieux. On ne mentionne pas aucun des noms de Dieu. Est-ce que Dieu est absent? Est-ce que Dieu est là? On a un livre dans la Bible qu'on dirait qu'il ne parle pas de Dieu. Mais si on est à l'affût, si on est sensible à ce que Dieu fait, Dieu est présent du début à la fin. Le doigt de Dieu, on voit le doigt de Dieu dans tout ce qui se passe dans la période de Esther. Et ça, ça devient clair quand on prend le temps de regarder l'œuvre de Dieu. Quand on comprend qui, quand on connaît qui est Dieu, on voit comment est-ce qu'il est intervenu. Alors, il y a des gens qui ont voulu dire, non, le livre d'Esther ne doit pas être dans la Bible, mais le livre d'Esther, si Dieu est silencieux, son action est pas laissée de côté non plus. Dieu est présent. OK, vous avez trouvé Esther 1, vous avez eu le temps en masse. Esther 1, on va commencer avec les 9 premiers versets.